RMC Motors, Christophe Plenet, Jean Lecroix.
Bonjour, bonjour à toutes et à tous. Je suis vraiment ravi de vous retrouver sur RMC. On est ensemble, comme tous les dimanches, jusqu'à 14h pour parler de sport mécanique. Et c'est vraiment difficile d'être mieux accompagné pour parler de sport méca. Jean Lecroix, bonjour.
Bonjour Christophe, bonjour à tous.
Au programme de la Formule 1, de la moto, de l'IndyCar, un invité exceptionnel dans un instant. Tout ça et plus encore, c'est sur RMC Motors. C'est parti, comme je vous l'avais annoncé, comme je vous l'avais promis, un invité exceptionnel aujourd'hui dans Motors.
RMC Motors.
Gauche 90, 150 mètres, droite 10, droite 120.
Le briefing.
Esteban Ocon, le troisième pilote de l'écurie Mercedes, nous fait le plaisir et l'amitié d'être avec nous. Salut Esteban.
Bonjour, bonjour, comment allez-vous?
Très bien, très bien. Et toi alors, parle-nous un petit peu de ton actualité, comment ça va en ce moment? Le téléphone sonne beaucoup?
Oui, non, tout va très bien pour l'instant. Pour l'instant, c'est une semaine de repos forcément entre Silverstone et Hockenheim, donc un petit peu de temps voilà pour se ressourcer, faire beaucoup de sport, se bien se préparer et puis après bah forcément dès demain je suis au retour au simulateur chez Mercedes donc voilà, c'est une petite semaine qui fait du bien après tous ces back to back.
On ne se cache rien, on se dit tout dans Motors. Esteban, j'ai lu sur internet, il y a des rumeurs qui bruissent, tu pourrais éventuellement remplacer Romain Grosjean chez Haas dès le prochain Grand Prix d'Allemagne à Hockenheim. Info ou intox, Esteban?
Ah bah tant que ça parle de nous, c'est des bonnes choses, mais tout ça voilà, c'est des rumeurs, il y a bien sûr rien de confirmé, mais voilà, tant que tout le monde voilà parle de nous, c'est des bonnes choses. Ça veut dire qu'on n'est pas oublié de ce monde de la Formule 1. Et puis mon objectif forcément, c'est de retrouver un siège le plus rapidement possible. Donc c'est sûr que mon management travaille très dur pour me trouver des solutions. Donc espérons qu'on en trouve très rapidement.
Ça t'intéresse, As, parce qu'on parle aussi bien sûr de toi chez Renault et chez Mercedes, mais simplement l'année prochaine. Qu'est-ce qui t'intéresse le plus, Esteban?
Ce qui m'intéresse le plus déjà, c'est de pouvoir revenir en F1, de bien pouvoir sûr. Rouler. Forcément de retrouver voilà ce goût d'être par un Grand Prix. C'est sûr que c'est difficile pour moi de pas rouler cette année. C'est quelque chose qui me manque énormément. J'ai travaillé voilà toute ma carrière pour en arriver là. Et puis forcément la nouvelle de l'année dernière de pas être parmi les 20 pilotes qui sont sur la grille, c'est quelque chose de difficile à avaler, surtout avec les performances qu'on avait réussi à faire. Tout le monde était voilà content dans mon équipe, dans mon équipe de management aussi, tout le monde était content de ce que je faisais, donc c'était sûr difficile à avaler.
Salut Esteban, c'est Jean-Luc. Je te remercie.
Bonjour
beaucoup.
Jean-Luc.
Ouais, c'est très sympa d'être avec nous. Comme tu le dis, dans le planning d'un pilote de Formule 1, il y a très très peu de temps libre. On va dire que la santé, malgré tout, puis ça permet de se décontracter un petit peu avant ce Grand Prix d'Allemagne. Alors la première question que j'ai envie de te poser, elle concerne évidemment le rôle très important que tu as auprès de cette équipe Mercedes, j'allais dire, qui
oui.
écrase le championnat dans le bon sens du terme. Par parenthèse, d'ailleurs, comment tu vois, toi, le fait que une petite victoire Red Bull, peut-être, on l'espère bientôt, une petite victoire Ferrari, ça anime le débat quand même. C'est peut-être plus sympa parce que ça paraît facile, finalement, de l'extérieur pour certaines personnes.
Bien sûr, c'est sûr que la grosse bataille, ça plaît à tout le monde. Hein, c'est le show, forcément. Et puis, même si ça a l'air facile de l'extérieur, c'est vraiment pas simple. C'est des débats constants sur le pit wall parce que maintenant, je suis forcément intégré complètement à l'équipe.
Et oui.
Donc, j'entends...
Ce que j'allais te demander,
plus
ouais.
ingénieur ouais. Que pilote. Donc je vois tout ce qui se passe. Toto qui n'arrête pas de faire les communications avec le muret, les stratégistes qui parlent non-stop pendant 2 heures, les débats souvent qui sont assez musclés. Hein. On peut le dire. Des fois, c'est pas facile du tout. On a l'impression que c'est super simple, mais pas du tout.
Ça l'est pas du tout, d'autant que effectivement c'est parfois une stratégie à géométrie variable, j'aime bien l'expression, et on l'a vu d'ailleurs lors du dernier Grand Prix. Alors est-ce qu'il t'arrive de mettre plus qu'un mot et de dire toi en tant que pilote tu peux effectivement avoir une opinion très très tranchée peut-être?
Bien sûr, et ce qui est différent que les années précédentes, c'est que moi je suis à toutes les courses, donc l'équipe me fait venir à toutes les courses, me fait venir après le simulateur, donc j'ai fait tous les tests en fait pendant la nuit après la FP2. Donc j'arrive en fait très bien préparé avec toutes les infos que l'équipe a besoin. Donc les ingénieurs souvent avant la qualif me redemandent des petites choses. Alors qu'est-ce que ce setup-là a fait, machin. Et par exemple, l'ingé de Valtteri m'a dit on est super content du travail que t'as fait parce qu'on a trouvé un bon compromis avec ce que tu nous as donné. Et du coup, il m'a remercié et tout. Donc c'est pour moi c'est toujours gratifiant. Mais par exemple en Autriche. C'est moi le premier qui ai vu le dommage de l'aileron avant de Lewis parce que j'ai vu qu'il est passé très large sur le libreur et je me suis dit là c'est sûr ça a cassé. Et j'étais avec la partie aéro, justement, à cette course-là. Et ils m'ont dit, bah, c'est, normalement, non, il n'y a rien. Et puis le tour d'après, en fait, il y avait bien quelque chose. Donc, ils m'ont aussi remercié. Donc, c'est toujours bien.
Alors, on revient sur l'Autriche. Tu en parlais, puisque c'est le seul faux pas, on peut dire ça comme ça, hein, justement, de l'équipe. Tu le voyais venir, ça. Et qu'est-ce qui s'est passé? C'est l'exploitation des pneus, dont on parle tous, hein, évidemment, qui est tellement énorme dans le rendement global.
Alors, non, ça n'a pas été l'exploitation des pneus le problème dans cette course. On avait clairement la vitesse pour faire mieux que ça, mais le problème c'était surtout la chaleur qu'il a fait.
Ouais.
Notre body aéro, donc tout l'aéro en fait a été prévu, mais pour des chaleurs moindres que ça. Et du coup, bah, les pilotes ont dû beaucoup gérer tout ça, beaucoup refroidir le moteur. Ils n'ont pas pu s'approcher des autres pilotes. Ils ont dû faire beaucoup de lift and coast, on appelle ça, quand on relâche beaucoup le gaz avant les freinages. Et du coup, bah, ils ont eu assez de mal à garder le rythme et forcément à pouvoir pousser librement. Donc c'était vraiment un enfer cette course.
Ouais. En Allemagne, il va faire chaud, je suppose. Tu sais, il y a une vague, une canicule qui remonte,
oui.
Là, peut-être jusque là-bas. Alors comment vous allez faire des trous partout?
Ouais, ça peut être. Ça, oui, c'est un peu ça. Ça peut être plus difficile quand il fait chaud. On a un petit peu plus de mal, mais voilà, on va amener des updates forcément là-dessus. Toujours, on essaie de trouver un peu de solution. On en a déjà amené à Silverstone, mais il a fait froid, donc on n'a pas pu vraiment voir. Donc on va voir à Hockenheim si ça fonctionne.
Bon ben, dans l'avenir immédiat, Christophe, il a eu raison. On en a parlé avant l'émission. J'y vais, j'ai dit allez, vas-y. Voilà. On se doute bien que effectivement ta place c'est dans un baquet. Hein, et j'en profite pour le dire, je vais te faire rosir, mais tout le monde sait que on peut pas gâcher un tel talent. C'est une évidence.
Hein,
à 22
d'accord.
ans, t'as marqué 49 points l'an dernier. Enfin, t'as poussé. Non, ben écoute, tu sais qu'on pense à toi régulièrement et on le dit sur l'antenne d'ailleurs sur RMC. Donc on espère tous que tu vas retrouver un baquet. Quel que soit le baquet, j'ose dire. On a parlé aussi de Robert Kubica à un moment, je reviens un petit peu en début de saison, mais Robert qui a du mal, hein, on le dit clairement, la piste Williams, elle reste vivace, on va dire, ou pas?
Bah, toutes les pistes restent vivaces, parce que Mercedes est très ouvert d'esprit sur tous les... même si c'est voilà un autre moteur ou un autre motoriste, je suis managé par Mercedes, donc c'est différent en fait. C'est pas, je peux être prêté à d'autres équipes, donc oui. Même s'il y a un problème là-dessus, voilà, je peux être prêté, c'est pas un souci en fait. La marque Mercedes vraiment ne veut pas me mettre forcément chez Mercedes, donc voilà, c'est assez ouvert. Et même s'il n'y a pas de solution d'un côté Mercedes, bah, on en trouvera d'autres, mais mon objectif principal, c'est sûr que c'est de rouler chez Mercedes et l'équipe officielle.
Tu pourrais finir la saison éventuellement dans une écurie style Haas ou Renault et retourner chez Mercedes l'année prochaine, c'est envisageable?
Non, en F1, rien ne me choque. Après, je ne sais pas si ça, ce sera possible, mais honnêtement, tout est possible.
Oui, justement, on ne va pas te faire dire quelque chose que tu ne peux pas ou que tu ne veux pas dire. Mais disons,
dis-nous
tes espoirs. Je vais formuler la question de manière un peu diplomatique, avec une petite porte ouverte. Est-ce que tes espoirs de remonter dans un baquet peuvent se concrétiser avant la fin de la saison? Tu vois, je te laisse.
Il est malin. Hein,
c'est un peu la même question que la dernière.
Oui, mais c'est formulé différemment.
Comme je l'ai dit, donc je vais refaire la même réponse.
Ouais.
Tout est possible.
Bon, c'est une très très bonne nouvelle. En tout cas, ton quotidien, j'allais dire, bon, il y a le break, hein, là après, il y a le petit break de 4 semaines entre le Grand Prix de Hongrie et le Grand Prix d'Allemagne. Est-ce que ce sera quand même des vraies vacances pour toi ou au contraire, on est en plein dans la silly season? Faut être joignable, j'allais dire, à toute heure presque.
Ah, bah, bien sûr, il n'y a jamais de vacances et même l'année dernière, hein, ça a été une période assez compliquée parce que ça a plus été des mauvaises nouvelles, mais mon premier jour de vacances, quand j'ai reçu l'appel
et je m'en rappelle.
Et qu'on m'a dit, bah non, en fait, c'est quelqu'un d'autre qui roulera à ta place, bah j'ai fait ok, bon bah voilà, donc super vacances commencent forcément. Donc espérons que ce soit des meilleures nouvelles cette année, mais oui, il n'y a pas vraiment de vacances de ce côté-là dans la silly season comme vous l'appelez.
On peut parler du règlement 2021. J'imagine qu'évidemment avec Mercedes, tu es impliqué à fond là-dedans. Les négociations, les discussions se poursuivent. Et semble-t-il, on écouterait les pilotes. Hein, en tout cas, Lewis Hamilton est venu participer à une réunion.
Oui. Alors,
évidemment, là aussi, on enfonce une porte ouverte. C'est quand même une sacrée bonne nouvelle, non? C'est nouveau, ça.
Oui, oui, oui. Vraiment, vraiment une très, très bonne nouvelle. C'est bien que la FIA prenne cette initiative, la FOM aussi, d'écouter les pilotes parce que, bah, forcément, nous, on est dans la voiture, on sait ce qui se passe. C'est bien l'œil extérieur, forcément, des ingénieurs aussi. Mais nous, on a des choses qu'on demande pour que la course soit mieux, pour que le show soit plus spectaculaire, pour qu'on ait plus de liberté de pousser sur ces pneumatiques aussi. Et on veut, voilà, on veut que ça, les voitures fassent du bruit et qu'elles soient physiques à conduire et que ce soit, voilà, très sympa et qu'on, ça nous propose du plaisir, forcément. Donc, non, c'est une super initiative et pour l'instant, j'entends que des bonnes choses. Donc, ouais. on va voir ce que ça donne, mais en tout cas, c'est que positif.
Esteban, petite question. Grand public, je le disais, tu es le troisième pilote de l'écurie Mercedes. Moi, j'ai envie de savoir comment Lewis Hamilton est au quotidien. Est-ce que c'est un garçon sympa? Est-ce qu'il tient compte de tes retours, de tes feedbacks, notamment? Comment ça se passe? Ta relation avec
lui. C'est une bonne question parce que je le voyais différemment avant que je le côtoie, voilà, presque toutes les semaines. C'est sûr qu'il a une vie très très chargée en dehors de la Formule 1, mais en fait c'est quelqu'un qui est très très vif d'esprit et qui capte toutes les informations très rapidement. Donc en fait il est très occupé en dehors de sa vie, mais dès qu'il arrive en fait sur le paddock et dès que c'est le mercredi soir ou le jeudi, tout de suite il est dédié avec ses ingénieurs, il travaille beaucoup, il demande toutes les choses importantes à savoir sur le week-end, et dès qu'il y a même quelque chose qu'il n'écoute pas ou qu'il capte tout de suite, en fait hop, il va te poser la question et choper l'information. Donc en fait c'est quelqu'un qui est très efficace, qui a besoin de moins travailler, parce qu'il a forcément un très très grand talent, mais aussi parce que voilà, il est très très malin dans la façon de construire son week-end.
J'ai deux petites transitions à faire avec toi, Esteban. D'abord, t'as 22 ans, comme Marie qui vient de se qualifier en demi-finale. Tu sais nager, d'ailleurs,
Et comme moi, Jean-Luc.
Et comme toi, tu sais nager dans les eaux troubles de la Formule 1, en tout cas. Ça y est, je l'ai faite.
c'est un beau jeu de mots. C'est pas mal.
Écoute, tu as 22 ans, je viens de le dire. T'as débuté en Formule 1, t'avais même pas 20 ans. Faut quand même le rappeler. Brillamment, oui. C'était sur un Grand Prix, là aussi, symbolique, hein, le Grand Prix de Spa-Francorchamps, en Belgique, un des magnifiques circuits. Alors là aussi, on a l'impression que Liberty, après avoir un peu être parti dans tous les domaines, dans tous les secteurs, reconduit des circuits traditionnels. Silverstone, c'est reparti pour la durée. Oui. L'Australie, on en parlera tout à l'heure, mais ça vient d'être signé. Est-ce que ça te fait plaisir à toi aussi? Tu es jeune, évidemment, mais je sais que tu es imprégné quand même de cet esprit et de cet esprit de bravoure qui a soufflé sur la Formule 1.
Bien sûr, mais j'adore tous ces circuits, Silverstone, Spa, Monza, tous les circuits mythiques qui demandent du courage forcément pour rouler, oui. pour pousser dans ces virages rapides. Les murs sont pas très loin, enfin voilà, c'est des circuits en fait qui ont un caractère, c'est des circuits qui ont des vibreurs spécifiques, qui ont de la pelouse, qui ont tout ce qu'on aime et tout ce qu'on a connu en fait quand on a grandi, parce que le karting, il n'y a jamais eu d'endroit où on pouvait sortir large et tenter de freiner beaucoup plus tard et toutes ces choses-là. Donc forcément, quand il y a une piste comme l'Australie ou comme Silverstone où il y a la pelouse ou tous ces circuits-là, avant de freiner tard, on va se poser la question, est-ce que ça vaut le risque? Et on va peut-être faire 1 mètre, faire 5 mètres pour freiner plus tard et essayer la chose. Donc voilà, c'est des circuits que bien sûr je suis content de voir, et j'espère que tous les anciens, genre Barcelone, genre l'Allemagne, tout ça, ça s'en ira pas du calendrier dans les prochaines années.
Bien sûr, c'est le pilotage, j'ose dire, à l'ancienne, si tu me le permets. Exactement. En tout cas, on pouvait pas tout tenter et il y avait une sanction. Alors, une petite question qui poursuit celle que t'as posée, Christophe, et tes rapports avec Valtteri Bottas. On sait que c'est un type sympa, mais comment ça se passe avec lui, puisque il sait, tu sais, tout le monde sait que si jamais il ne rend pas les résultats qu'on attend de lui, t'es pas loin.
Autrement dit, t'as pas envie de le pousser un petit peu dans l'escalier, Esteban?
Non, honnêtement, il faut le laisser se concentrer. Moi, je suis là, je fais le même travail que je fais avec Lewis, donc je donne les mêmes informations. Comme j'ai dit, il a fait la pole à Silverstone et son ingénieur m'a remercié de toutes les informations que je lui ai données. Donc, moi je fais mon job, je suis pas là pour lui mettre du tout des bâtons dans les roues, et puis il faut que je sois professionnel de toute façon, parce que je suis un pilote professionnel maintenant.
Alors un petit regard sur les pilotes français, je sais que là aussi c'est délicat. Alors Pierre Gasly qui a eu un début de saison très difficile, qui semble, oui, tant mieux, relever la tête. Je sais que vous êtes très potes, hein, vous êtes de la même région. Comment tu l'analyses toi aussi de l'extérieur ou peut-être de l'intérieur? T'as peut-être des infos qu'on n'a pas. Il n'avait pas tout à fait la même voiture, semble-t-il. Et puis il a réussi à trouver des réglages qui lui conviennent. On peut l'expliquer comme ça?
Je sais pas trop, voilà, exactement ce qui s'est passé de son côté. Je suis pas du tout intégré à l'équipe Red Bull et je lui ai pas trop parlé non plus. Mais c'est sûr qu'une saison comme ça, un début de saison, de se faire prendre un tour par son coéquipier, c'est très très difficile, hein. Et puis dans la tête, forcément, quand on voit la course après course que la course, ça s'améliore pas et que ni la qualif, on est très très loin de son coéquipier, bah c'est difficile, mais il a l'air d'avoir trouvé quand même un petit peu de vitesse à Silverstone, ça a l'air d'aller beaucoup mieux, donc on va voir si ça continue sur les prochaines.
Espérons que ça va continuer. Alors, une autre question avec, bon, il n'est pas français, je sais bien, on va toujours me la faire, mais il est francophone.
Charles,
on voit que bah, un excellent pilote, que, comme tu l'es également, dans bien une sûr. Excellente voiture, bah, il brille. C'est normal, tu vas me dire?
Ben, moi, je m'y attendais complètement. J'avais dit après quelques courses qu'il allait battre Sébastien déjà tout de suite. Et les gens m'avaient pris pour un fou à l'époque.
C'est lui d'ailleurs le leader, selon toi, chez la Scuderia désormais?
Peu importe ça, vraiment. En fait, de toute façon, les pièces sont très proches maintenant sur les voitures. Et puis, dans une grande équipe comme ça, souvent, on a tous les deux les évolutions. Donc, leader ou pas leader, de toute façon, si on a la même voiture, bah, c'est le meilleur qui fera le meilleur boulot à la fin. Et puis on a tout, de toute façon tous les ingénieurs dédiés d'un côté et de l'autre du garage, donc ça peu importe vraiment, mais c'est sûr que pour l'instant il est en train de prendre le dessus sur Sébastien, et c'était à prévoir, et puis maintenant bah, tous les gens commencent à le voir, et c'est une bonne chose aussi, on voit que les jeunes pilotes bah, ont la place, et que les anciens et les champions bah, ils ont deux bras deux jambes, ils sont battables.
Allez, une autre question, elle est délicate celle-là, évidemment c'est Romain Grosjean, on peut pas ne pas en parler. Première moitié de saison, on va dire catastrophique, moi j'ai pas l'habitude de pas utiliser les bons mots, on a l'impression qu'il est totalement déstabilisé, on voit les deux pilotes s'auto-éliminer dans le premier tour à Silverstone. Tu as vécu ça avec Pérez l'an dernier parce que c'était rugueux entre vous, là aussi il faut être très fort hein, mentalement pour résister à ça.
Bien sûr, c'est pas facile, surtout quand on n'a pas la vitesse avec l'équipe et qu'il faut essayer de redresser la barre. Et en plus, quand on fait des erreurs comme ça, bah, c'est un coup de massue sur la tête. Hein. C'est difficile. Nous, avec Pérez, on se battait pour des places solides, on se battait pour des 6-7, des gros points. Que là, bah, quand on est en dehors des points et qu'on essaie voilà, de rattraper des places comme ça au premier tour, c'est toujours un risque. Et malheureusement, voilà, ils se sont touchés. Donc c'est comme ça, c'est arrivé, mais oui, d'être perdu à ce point-là, bah, l'équipe AS pour l'instant c'est compliqué.
Ouais, et puis en plus il y a les loufoqueries, pour ne pas dire plus de leur sponsor, là je vais pas te demander de réagir, mais là c'est vrai que là ça tourne au burlesque, c'est peu de le dire. Après ces deux Grands Prix-là, tu vas quand même avoir quelques jours de, je vais pas oser dire de vacances, mais où tu vas prendre un peu l'air ou pas?
Oui, comme d'habitude. Donc voilà, je vais faire une petite semaine de vacances courte, et après directement je repars à Font-Romeu chez 3-2 Imperform pour m'entraîner. Comme d'habitude, voilà, en altitude et me refaire une santé, voilà, pour revenir encore plus fort, forcément sur la deuxième partie. Et puis, bien sûr, si quelque chose se présente, je dois être prêt. Donc, c'est clair que, bah voilà, je m'entraîne comme si je devais rouler.
C'est une sorte de pré-saison, en fait. Tu vas t'entraîner pour être prêt si éventuellement le téléphone sonne et avec des bonnes
toujours,
nouvelles.
Toujours. En fait, je change pas la façon. Je m'entraîne de la même façon que si je devais rouler. Je fais la même préparation, donc. Toujours, je me suis toujours entraîné là-bas à Font-Romeu en altitude pendant 2 mois l'hiver, c'est ce que j'ai fait cet hiver. Pareil, après mes une semaine de vacances, je retourne 8 ou 9 jours dans les Pyrénées pour me refaire une santé aussi là-bas, et puis tous les check-up qu'il faut avec les médecins, etc. Et ouais, pour revenir prêt forcément à la deuxième partie.
Ouais, ça c'est la deuxième partie, mais rassure-nous et rassure tous tes fans. Si jamais tu devais être dans un baquet le week-end prochain à Hockenheim, tu seras prêt, Esteban.
Si je dois monter dans une voiture, croyez-moi, je serai prêt.
Il est déjà prêt.
Jean-Luc, le mot de la fin peut-être?
Oui, le mot de la fin, bah, écoute, en croisant les doigts vraiment pour le revoir dans un baquet, moi je dis avant la fin de la saison, ce serait forcément pas une bonne nouvelle pour l'un des 20 autres pilotes, mais ça en serait une tellement bonne pour Esteban, puis je l'ai dit et je le redis, il a le talent pour briller, si on lui donne la voiture et l'écurie, je suis certain que lui aussi fait partie.
Merci
de ce... Bah, je t'en prie, tu le sais depuis longtemps, voilà, c'est tout ce qu'on peut lui souhaiter.
Je m'associe Esteban à ce que vient de dire Jean-Luc, on te souhaite vraiment le meilleur pour cette deuxième partie de saison 2019, et on espère vraiment que tu pourras retrouver un baquet, hein, que ce soit chez As, chez Renault ou chez Mercedes. En tous les cas, hein, tu le mérites. Et merci vraiment d'avoir été avec nous dans Motors aujourd'hui.
C'était
top, Esteban.
Tu es chez toi sur la fin de saison.
Tu es chez toi sur RMC. Tu reviens quand tu veux, Esteban.
Ok. RMC Motors, Christophe Plenet, Jean-Luc Roy.
13h30, vous êtes sur RMC, vous êtes donc au bon endroit. On continue donc Motors, on continue de parler Formule 1 et on fait justement un petit saut dans le passé.
RMC Motors, dans le rétro.
On va revenir sur le Grand Prix de Grande-Bretagne à Silverstone avec Jean-Luc Roy, bien sûr, mais on accueille également une jeune femme passionnée de F1. Elle ne voulait pas composer le 32-16, elle est venue directement au studio. C'est Marie Martineau. Salut Marie.
Salut, vous allez bien?
Ouais. Salut Marie.
Vraie passionnée de Formule 1.
Bah, je baignais dedans parce que voilà, mon papa était super fan de bagnole en général. Et puis, ben, le dimanche, c'était Grand Prix. Donc, nous, on le voyait pas de la semaine vu qu'il bossait. Donc, c'était câlin sur le canapé et Grand Prix.
Très bien.
Voilà, ça vient de là.
La Formule 1, ça a d'autres vertus, tu
exactement.
Vois.
Exactement. Alors, Jean-Luc, Marie, on a eu dans la première partie de cette émission Esteban Ocon. On a longtemps parlé de Mercedes. Mercedes qui domine de la tête et des épaules ce champion du monde 2019. Du coup, cette saison de F1, est-ce qu'elle n'aurait plus qu'un seul petit intérêt? C'est cette bagarre Ferrari-Red Bull avec ce mano à mano qu'on voit de Grand Prix en Grand Prix entre Leclerc et Verstappen.
Écoute, il faut parier sur une canicule qui va s'étendre sur l'ensemble des Grands Prix, puisque Esteban, je rebondis sur ce qu'il nous a dit, et on sait que ça... Avantage, le mot est trop fort, mais disons que c'est favorable aux Ferrari, qui ont toujours effectivement plus d'aisance, mais c'est depuis toujours d'ailleurs, alors que les autos ont changé, les règlements ont changé, c'est assez curieux de constater que les Ferrari sont toujours plus performantes. Pourquoi? Je pense parce qu'elles ont du mal à mettre leurs pneumatiques en température. Et évidemment, quand tu as une température extérieure de l'ordre de 30 ou 35 degrés, et sur la piste qui peut atteindre 50 degrés,
ça aide.
Et ça aide. Quand tu dois monter tes pneumatiques, là, on le sait, à 110 degrés, avec une tranche de 5 degrés seulement, c'est-à-dire moins de 5% pour les exploiter, bah forcément c'est un petit peu plus facile ou moins difficile comme tu veux. Donc je pense qu'effectivement c'est pas joué. Je sais bien que tu as.
Tu penses vraiment que le titre pilote et le titre constructeur peuvent échapper à Mercedes et à Hamilton?
La réponse est non. Ou alors il faudrait un drame. Et là je touche du bois pourvu qu'il n'y en ait pas. À la régulière, non, c'est impossible. Même s'ils étaient un peu moins en forme, ils pourraient gérer cette avance absolument considérable. Je reprends le classement constructeur. Tiens, on va parler de celui-là qui est peut-être le plus parlant. Évidemment, 223 pour Hamilton, 184 pour... Ça veut dire 407 points pour Mercedes, 243 pour Ferrari, c'est carrément un gouffre. Et derrière, Red Bull, mais Red Bull peut chasser Ferrari. Donc voilà l'intérêt, je rebondis sur ta question. Oui, bien sûr, derrière, pour les accessites, et on a bien vu en Autriche que c'était possible. Puis encore une fois, moi, j'attends cette victoire de Charles pour bientôt, lorsqu'il aura réuni tous les éléments, il n'est pas loin de les réunir. Il a pris le pas maintenant sur Sébastien Vettel, il faut le dire clairement, tant en performance unique sur un tour, je crois que les faits parlent, et puis je crois qu'on a compris quand même chez Ferrari que maintenant il faut arrêter de donner l'avantage à Vettel, parce que la vraie perle et la vraie chance de mettre en péril peut-être, non pas Mercedes, mais au moins de dominer Red Bull, parce que Red Bull revient, attention, hein, c'est d'avoir un Charles dans pleine expression de ses moyens. Donc on va lui laisser faire ses courses, et ça déjà c'est formidable.
Marie, je te connais un petit peu, je sais que tu adores la baston, donc les passes d'armes entre Leclerc et Verstappen, wow. t'as dû apprécier.
Oh bah, je me suis régalée, c'était dingue. Alors en plus, le fait que Ocon soit au commentaire, ça donnait encore un peu plus d'intérêt, j'ai trouvé. Des choses qu'on voit pas forcément et que lui voit et qui était capable de nous expliquer, c'était vraiment chouette. Mais oui, bah, ça a fait la course, c'est-à-dire que... On n'a pas vu Hamilton, mais même en temps d'image, on ne voyait plus les Mercedes devant, terminé quoi. On était juste tous focus sur cette bagarre, et c'était d'autant plus excitant suite à ce qui s'était passé en Autriche, où on a vu cette remontada et qu'ils se sont frottés un peu, et qu'il y en a un qui n'avait pas tout à fait pris en considération le fait qu'on pouvait se frotter. Et là, du coup, voilà, ils étaient armes égales, et c'était hyper excitant, effectivement.
Allez, la transition est parfaite. Merci Marie. On va écouter Charles Leclerc au micro de Luc Avinois qui revient justement sur l'accrochage en Autriche avec Max Verstappen.
Finalement, c'était plutôt bien d'avoir cet accrochage en Autriche. Ça m'a montré jusqu'à où je pouvais aller. Aujourd'hui, on a poussé un petit peu plus les limites et c'était cool. On s'est vraiment amusé et c'est comme ça que toutes les courses de F1 devraient être.
Finalement, c'est un mal pour un bien. Ça le fait grandir, le garçon Jean-Luc.
Bah, écoute, on a assez râlé sur cette antenne depuis tellement longtemps sur la débilité, j'ose le dire, c'est des mots forts, mais bon, c'est pour mieux me faire comprendre du règlement qui interdisait aux pilotes de se battre. Et on le sait, tout le monde aime le baston, mais sinon ça n'a aucun intérêt. Si c'est un défilé, une procession où on n'ose pas, où on ne peut pas pour des raisons aérodynamiques, ça aussi on est en train de travailler là-dessus.
Les courses de tondeuse à gazon, c'est pas pour toi.
Mais non, les courses de tondeuse à gazon, ça sera jamais pour moi, ou ce sera sans moi. Voilà, ça va être plus simple. Donc, ce qu'on aime, c'est que les pilotes. Alors, il y a une certaine limite à respecter, mais les pilotes le sentent entre eux. Parce qu'effectivement, avant, quand les pilotes s'accrochaient, on mettait la vie d'un de ses adversaires en jeu. Et ça n'allait jamais au-delà. Enfin, il y avait toujours, on va trouver quelques exceptions, mais c'était rare qu'on mette, comme les pilotes moto, par exemple, qui se respectent infiniment, malgré, on le sait, l'animosité qu'il a pu y avoir ou qu'il peut y avoir, ben en Formule 1 c'est pareil. Et tu vois, Esteban vient de nous le dire, les pilotes, ils souhaitent que ce soit, ça reste un sport dangereux. Je suis désolé de le dire, mais bien sûr. Danger, c'est toi qui as pratiqué le ski à haut niveau, c'est toujours un piment supplémentaire. Bon, on adore tous plein de sports qui ne sont pas dangereux, mais quand il y a le danger, quand tu mets ton existence en vie ou ta santé en vie, ben c'est une autre dimension. Et là, pour le dire, puisque maintenant on semble permettre au niveau de la FIA, enfin aux pilotes de retrouver cette agressivité dans le bon sens du terme, mais bon sens, ça va être génial. On va en avoir d'autres des Grands Prix comme celui-là.
Écoutez une nouvelle fois Charles Leclerc au micro de Lucas Vinoy qui nous parle de ses nombreux dépassements.
Je me suis vraiment vraiment amusé, c'était vraiment vraiment top. Ça m'a rappelé un peu les journées karting qu'on faisait le week-end à la piste de Brignoles quand j'étais plus jeune. À part que cette fois c'est en F1, mais bon, c'était vraiment cool de l'intérieur de la voiture.
Marie, c'est l'essence même de la Formule 1. Hein. Pour pas faire la sieste, il faut de la bagarre, des dépassements et du suspense.
Et il dit quoi ? Il dit je me suis amusé. Et en fait, nous aussi, en les regardant, on s'est amusé. Et franchement, on avait eu un débat dans les grandes gueules sur y a-t-il un sport plus soporifique que la F1 ? Oh, j'étais comme une dingue, j'étais noitée. Je disais ben voilà, la réponse, elle est toute faite. C'est eux qui la font. Et en plus, ils sont de la même génération, ils sont jeunes tous les deux, on sent la fougue. Alors il y a beaucoup de maîtrise, mais comme tu le disais, de respect, mais on sent vraiment la fougue qui les habite. Et pour rouler comme ils roulent, bah je sais qu'il doit en falloir de la fougue.
Avec Esteban bientôt en plus avec eux pour s'amuser, ça va être sympa.
Ah oui,
Jean-Luc, question de Béotien, on peut s'amuser à 300 km/h?
Et au contraire, c'est le piment supplémentaire.
Ce garçon
écoute,
est fou.
Mais non, mais écoute, moi je vais jamais me comparer à ces grands champions, mais j'ai eu la chance, tu sais, de pratiquer la course moto et j'ai fait Le Mans deux fois, par exemple. Bah, c'est le circuit, un des circuits les plus dangereux du monde, mais c'est une excitation absolument phénoménale. Et tu le sais, là justement, tu sais que tu tiens ta vie entre tes mains et que la moindre erreur, elle se paie cash immédiatement. Mais c'est ça la vie, quoi.
Et pourtant,
c'est
pas. Il compare ça au karting. Karting, oui, qu'on a tous plus ou moins essayé. Et qui est vraiment un truc marrant à faire avec des copains, quoi. Et voilà.
Bien sûr, mais parce que l'excitation, elle est à son comble. Alors l'enjeu, évidemment, ou la sanction, plus exactement, elle peut être radicale, parce que quand on est à plus de 300 km/h, évidemment, ça peut tout de suite prendre des proportions. Mais en tout cas, ils maîtrisent tellement leur sujet. Et puis ils ont 22 ans, c'est deux gamins, quoi. Avec Verstappen, ils se connaissent depuis, ils roulent ensemble depuis 12-15 ans. Donc c'est formidable. En plus, il y a une complicité. Tiens, on va reciter René Arnoux, évidemment, et Gilles Villeneuve. Vous avez tous vu ces images, hein, même si elles sont vieilles, maintenant le Grand Prix de France 79 à Dijon remporté par Jean-Pierre Jabouille, avec les deux monoplaces qui se frottent plusieurs fois, ça dure plusieurs tours, mais aujourd'hui là aussi, enfin peut-être moins dans l'avenir immédiat, mais on les aurait sanctionnés 10 000 fois ces pilotes-là, alors qu'ils étaient tous les deux, mais comme des mômes, en descendant des voitures à se taper des grands coups dans le dos en disant bon, mais non, mais c'est ça le plaisir des sports mécaniques, c'est ça le vrai bonheur.
Ouais. Petite question perfide, Marie, de mon producteur adoré dans l'oreille, tu t'amuses à 200 km/h sur l'autoroute?
Oh. Ça balance. Il me reste un point, c'est une catastrophe. Arrêtez. Mais je m'amuse beaucoup plus sur les routes de montagne vers chez moi qu'à 230 sur l'autoroute.
J'entends bien.
Mais attends, je vais être listé noir, mais la vitesse, c'est pas dangereux. Encore une fois, c'est dangereux par rapport aux circonstances, mais c'est tout. Même. Par rapport aux circonstances, bon, ça, c'est un vaste débat. Là, il nous faudrait 3 heures et puis ça se terminerait mal. Donc, parce qu'effectivement, au lieu d'abêtir les gens, il faut leur apprendre à conduire, c'est tout, et être responsable. C'est un vaste débat.
Très bien. On va refermer tranquillement cette petite parenthèse Formule 1. On remercie encore une fois chaleureusement Esteban Ocon d'avoir été avec nous dans la première partie de Motors.
C'est un garçon Marie.
J'étais très flattée, très honorée de faire ça.
Juste wow. Esteban, c'est un garçon que tu as envie de revoir rapidement en F1, Marie, bien sûr.
Oui, effectivement, ça c'est clair et net. Je pense qu'on est tous d'accord là-dessus. Et d'autant plus quand ça nous a permis, le fait qu'il sorte du circuit, c'est peut-être con à dire, mais ça nous a permis de le connaître un peu plus, de l'entendre. Et donc en plus d'être talentueux au volant, a priori c'est quand même quelqu'un qui a une tête bien faite, donc bah voilà, des champions français comme toujours, ça, on veut les voir en exercice.
Et un petit mot merci à Mercedes de l'avoir laissé s'exprimer. Exactement. Aussi parce que comme il est dans le giron, il a fallu passer, ce qui est normal, et donc on a eu le feu vert, donc c'est génial.
Très bien, merci beaucoup Marie, tu reviens quand tu veux dans
le
Motor,
c'est
sur RMC. De 4 roues à 2 roues, il n'y a qu'un pas qu'on va franchir allègrement, et on accueille Jean-Claude Augrel au téléphone, ancien pilote, pour parler de moto. Bonjour Jean-Claude.
Bonjour à tous.
Alors Jean-Claude, je veux te laisser avec un copain, avec Jean-Luc. Vous allez pouvoir disserter tranquillement de moto et de MotoGP, notamment d'un certain Fabio Quartararo, Jean-Luc.
Ah ben oui, écoute, il y a beaucoup à dire effectivement sur ce jeune pilote. Merci beaucoup hein, Jean-Claude, c'est toujours un plaisir de t'accueillir dans cette émission. Et puis tiens, si j'évoque toujours ce vieux souvenir personnel, ma dernière course de moto c'était avec toi, tu vois, tu t'en rappelles, c'était au Mans, donc ça ne rajeunit pas. Non. Alors on va parler de vrai talent de Fabio Quartararo, qui est... Alors j'ai ressorti un classement qu'on sort pas souvent, c'est celui des pilotes indépendants, parce qu'il faut quand même comparer à ses pairs. Et ben dis donc, il est deuxième à égalité avec Cal Crutchlow et à 3 points de Jack Miller. Alors qu'est-ce que ça t'inspire, ça, effectivement, sur le talent de Fabio, qui a d'ailleurs, on en parlera après, mais commis peut-être l'une des seules erreurs depuis le début de la saison, là, lors du dernier Grand Prix.
Oui, alors le fait qu'il soit en bagarre pour être premier pilote privé, c'est la première année, c'est quand même extrêmement étonnant. Ouais. Surtout, rappelons-le, il a 20 ans. Il a 20 ans, la moitié de Valentino Rossi. Donc on se dit quelle belle carrière s'ouvre devant lui quand même. Après, c'est les courses de moto. Il y a des hauts, il y a des bas, il y a des choses. Pour l'instant, la première partie de saison a été exceptionnelle. Il a fait une erreur en course, une. C'est vraiment très peu. Et autrement, bah, il serait largement devant d'ailleurs en tant que premier privé.
Bien sûr. Alors, au général, hein, il est huitième avec ses fameux 67 points. Juste derrière, Jack Miller, on l'a dit, est égalité avec Cal Crutchlow, qui est quand même une référence, hein, le pilote britannique. On revient un petit peu sur cette erreur, si tu veux bien. Bah, on s'attendait tous à ce qu'il en commette d'autres, hein, on est bien d'accord. La seule course qu'il n'avait pas terminé du tout, c'était l'Espagne, hein, pour un problème mécanique de sélection de boîte de vitesse. Mais ce qu'il y a d'étonnant avec Fabio également, c'est cette maturité dont il fait preuve à 20 ans.
Oui, exactement. C'est-à-dire que systématiquement, la foi de son sélecteur défectueux, il était extrêmement énervé parce que c'est un combattant, hein, c'est un guerrier quand même, Fabio, il faut le savoir. La preuve, toutes ses pôles et toutes ses bagarres au warm-up et pendant les essais où il est devant avec des pilotes qui sont là depuis 4, 5, 6, 10 saisons, voire plus, en ce qui concerne Valentino, c'est un vrai combattant. Et systématiquement, il disparaît pendant un quart d'heure, 20 minutes, il est très énervé et quand il revient, il est souriant, il a analysé, il a une vraie tête. Il a une vraie tête, il est formaté comme un champion.
Et puis tiens, pour alimenter le débat, Jean-Claude, avec toi, en termes de pole position, tu en parlais, Marquez en a signé 5. Marquez qui est quand même, effectivement, on va dire un extraterrestre, hein, comme on l'évoquait il y a quelques années pour Freddy Spencer. Maverick Vinales en a signé 1. Et tiens-toi bien, Fabio, et tu le sais, on a signé 3. Ça veut dire qu'en termes de vélocité, il est déjà parmi les plus rapides du plateau.
Faut gagner maintenant.
Voilà.
Oui, d'ailleurs, ce qui est un peu amusant, parce que j'aime bien regarder toutes les critiques qui sont faites à chaque fois sur les motos, sur les pilotes, etc., etc. La Yamaha, qui était une moto achetée à la ferraille il y a 2 mois, est devenue d'un seul coup une des meilleures motos du plateau. Et c'est marrant. Ouais. C'est depuis l'épaule de Quartararo que d'un seul coup Vinales fait marcher sa moto. Ils ont essayé la même fourche que Quartararo. Ils ont essayé et puis ils sont revenus à d'autres choses. Mais à chaque fois, systématiquement, je pense que c'est vraiment les pilotes. Je suis pas sûr du tout. Enfin, il y a qu'à regarder le classement d'ailleurs. Je suis pas sûr du tout que si on enlève Marquez sur la Honda soit une très très bonne moto.
Bien sûr, tu as raison.
Et la Yamaha n'était pas la plus mauvaise des motos. Et d'ailleurs, depuis que Vinales a retrouvé comment on faisait pour s'en servir, a retrouvé le sélecteur et a pu passer les vitesses, d'un seul coup il est devant. Donc c'est exactement ça, ça reste et heureusement un sport d'homme.
Alors il y a un autre critère, tu vas voir, qui est intéressant, pour lequel, tiens-toi bien, il est quatrième du championnat, c'est le nombre de tours effectués en tête. Alors évidemment Marquez 142, lui on va le mettre hors jeu. Concours. Dovizioso 23, tu te rends compte du gouffre. Derrière on a Danilo Petrucci, donc les deux pilotes Yamaha. Et qui est quatrième? Fabio Quartararo avec 12 tours en tête devant Maverick Vinales 11 tours, Valentino Rossi 8 tours et Jack Miller 2 tours. C'est étonnant hein, les statistiques quand on regarde ça, Jean-Claude.
Ah ben quand on détaille, on se rend compte de choses qui sont extrêmement étonnantes, effectivement, et ça vaut toujours le coup d'ailleurs de rentrer dans ces détails. Quand on peut avoir toutes ces données, c'est extrêmement intéressant. Oui. Vous rendez compte le nombre de tours en tête pour un pilote de 20 ans, c'est-à-dire qu'on est Marquez, on est dans la lignée d'un champion du type Marquez, quelqu'un qui domine parfaitement bien son sujet, qui est dans les courses de moto depuis longtemps, alors qu'il a 20 ans. N'oublions pas, il a 20 ans.
Ben oui, oui, on pourrait s'attendre effectivement à ce que ce soit un pilote qui commette beaucoup plus d'erreurs. Et là où il m'a, moi j'avoue, le plus impressionné, c'est effectivement quand il s'est retrouvé en tête et qu'il n'a pas commis d'erreurs tangibles. Hein. Il en a fait une, bon là aussi c'est comme ça qu'on apprend, puisqu'on le dit à chaque fois, l'expérience c'est quand même une longue suite d'erreurs plus que de réussites.
Oui, oui, et puis vous savez, des pilotes qui tombent, il y en a. Marquez, il tombe vraiment très souvent aux essais. Bon, en course, il est un peu plus adroit, mais ouais. Il tombe beaucoup aux essais parce qu'il cherche des choses. Fabio Quartararo, pour le regarder et regarder ses séances d'essais, c'est d'une propreté absolue. On se dit, alors lui, on se dit vraiment qu'il a une marge de progression.
Ouais, c'est génial.
Merci beaucoup, Jean-Claude Ogrel, d'avoir été avec nous dans Motors pour parler moto.
Toujours avec plaisir.
Un vrai plaisir.
Et prochain Grand Prix, juste République Tchèque, Brno. Le 4 août.
Exactement, voilà. On retrouvera Fabio Quartararo à Brno le 4 août pour peut-être, on l'espère, une première victoire en carrière en MotoGP, une petite respiration. Et Motors revient dans un instant sur RMC pour la dernière ligne droite.
RMC Motors. RMC Motors. Christophe Plenet, Jean Lecroix.
37 Motors entre dans sa dernière ligne droite. On est ensemble les amis jusqu'à 14h. Et maintenant on s'intéresse aux dernières news, aux dernières indiscrétions de la planète Sport Méca.
RMC Motors.
World Champion. Oh my god, I can't believe it. Thank you so much guys.
Radio Paddock.
Et pour Radio Paddock, on accueille avec Jean-Luc quelqu'un qui a plusieurs casquettes. Il est pluridisciplinaire, il a un talent immense.
Il est partout, ils sont plusieurs.
J'ai nommé Pierre Amiche. Salut Pierrot.
Salut
Pierrot. Bonjour,
bonjour
à tous. Alors Pierre, on démarre par l'IndyCar. C'est tout frais, c'est tout récent.
Et oui, la course avait lieu cette nuit, 1h15 du matin, heure française. Bon, je vous avoue que je ne me suis pas levé pour regarder, mais j'en connais un qui l'a fait, oui. Hein, d'où les petits yeux. En attendant, Simon Pagenaud.
Elle a été retardée en plus.
Ouais, c'est ça. En attendant, Simon Pagenaud avait signé la pole, mais ne prend finalement que la 4e place à l'issue de la course parce que cette étape dans l'Iowa a été dominée par Joseph Newgarden, et oui, encore lui, il a signé le tour le plus rapide, c'est lui qui a fait le plus de tours en tête, et c'est forcément lui qui a gagné, il devance Dixon et James Hinchcliffe. Jean-Luc, si je dis pas de bêtises, c'est une course qui a été marquée par la pluie, et même quasiment par des tempêtes, on a vu des reports sans cesse de cette course.
Tout à fait, il y a 4h30 de retard effectivement avant que le départ ne soit donné. On sait très bien que sur les ovales, on ne peut pas rouler sous la pluie, hein. C'est impossible, il n'y a aucune adhérence. Donc je répète toujours, sur les ovales, on croit toujours qu'aux États-Unis on ne roule pas sous la pluie. C'est pas vrai sur les circuits routiers, mais c'est évidemment exact sur les ovales. Alors là, c'est un ovale très particulier, un tout petit ovale, puisque le temps autour, c'est de l'ordre de 18 secondes. Le mur des 18 secondes, Simon Pagenaud, tu viens de le dire, l'avait franchi. Et c'est sur deux tours, en fait, qu'on qualifie les pilotes. Sébastien Bourdais, lui, avait pas eu de chance, parce qu'il y a un pilote qui avait semé de l'huile un peu avant lui, et donc il n'était qualifié que 21e. Alors la bonne nouvelle, c'est qu'il rentre dans les points. Pierrot, tu l'as vu, il est 9e. Donc il doit préserver normalement, il doit rester dans le top 10 hein, au championnat. Alors que devant, tu l'as dit, Newgarden, là, il a fait un pas en avant.
Bah oui, ouais, c'est sûr. Et d'ailleurs, Simon Pagenaud qui laisse passer des points précieux, puisque à 5 grands prix de la fin, il pointe à plus de 50 points. Est-ce qu'il peut encore gagner cette IndyCar Series selon toi?
Écoute, avec un adversaire qui est de la même équipe que la sienne, Penske, Newgarden, il est très bon. Il a déjà été champion également il y a quelques années. Puis là, on va pas oublier Scott Dixon, hein, le Néo-Zélandais, qui est lui aussi quadruple champion. Je pense qu'il peut, parce que je crois que ça y est, il est sorti dans le bon sens et dans le mauvais du syndrome des 500 miles d'Indianapolis. On rappelle que, évidemment, Simon a été le premier Français depuis un siècle à remporter cette prestigieuse épreuve des 500 miles d'Indianapolis cette année. Il l'a avoué lui-même, il a été un petit peu perturbé dans les une ou deux épreuves qu'il a subies, notamment Détroit. Là, ça y est, il travaille, et ses deux pôles consécutives en sont la preuve. Non, je pense que là, en fait, il était devant, et puis il s'est fait dépasser par ses équipiers, donc effectivement Newgarden qui était derrière, puis on n'oublie pas Will Power hein, qui est toujours un petit peu là aussi,
qui est cinquième du général.
Voilà, qui est cinquième du général. Donc c'est vrai que je pense que il a encore des chances parce qu'on marque beaucoup de points, 5 épreuves, il arrive beaucoup de choses, puis c'est des circuits différents, tu vois. Si je regarde le tracé, il y a encore deux ovales dont un tri-ovale de Pocono, et le reste c'est des routiers, et il est très bon sur routier aussi Simon. Donc il a pas abdiqué toutes ses chances de retrouver le titre qu'il avait déjà remporté, il faut le rappeler. Hein, quelques saisons.
Et juste pour terminer avec cette page IndyCar, on rappelle évidemment que les 500 miles d'Indianapolis, c'est une des courses les plus importantes du monde et ça prend beaucoup d'énergie une fois qu'on l'a gagnée. C'est la tournée des médias à l'américaine. Et c'est vrai que Simon Pagenaud a peut-être été un peu déstabilisé ou en tout cas fatigué par cette immense tournée. D'ailleurs, il y a même son chien qui est devenu une véritable star aux États-Unis. Il a son compte Instagram et Simon Pagenaud disait en rigolant qu'il avait presque plus de followers que lui. Donc voilà, c'est quand même la folie à l'américaine avec toute la tradition qui entoure Indianapolis. Et on comprend que ça n'a pas forcément été...
Et tu vois, ce qu'il y a de génial, juste pour souligner l'esprit qui règne en IndyCar, les deux, hein, Seb, c'est un vieux copain depuis longtemps, et Simon aussi, je leur envoie des petits SMS après les essais, ils te répondent, ils sont sur le circuit, ils te répondent juste avant de prendre le départ. Enfin, je veux dire, voilà, c'est la proximité avec le public, ce que tu disais.
Alors, évidemment, toi, tu ne me réponds pas toujours, Jean-Luc.
Parce que Jean-Luc, c'est The King, il répond quand il veut.
Jean-Luc, The King, non,
c'est Sébastien Bourdais, 11e du classement général, ouais. et Simon Pagenaud qui est 3e, qui est 4e.
Oui, parce que Scott Dixon lui a terminé deuxième, ce que tu as signalé, donc effectivement. Mais bon, ça va être très serré quand même. Moi, je pense qu'il a pas perdu toutes ses chances, loin s'en faut.
On passe à la F1 ?
Avec plaisir, Pierre, et une bonne nouvelle pour les kangourous, si je dis pas de bêtises.
Eh oui, c'est une information qu'on attendait forcément. Melbourne confirmé jusqu'en 2025, c'est une très bonne nouvelle. C'est un des grands prix historiques de la saison au calendrier depuis 1985, j'étais même pas né. Le contrat, désolé les gars, et le contrat entre Melbourne et la F1 qui devait prendre fin en 2023 avant cette prolongation, finalement s'est vu augmenter deux ans, deux saisons, qui permettra de fêter les 30 ans de présence à Melbourne en 2025 et peut-être le 14e titre de Lewis Hamilton, si je me trompe pas, si mes calculs sont bons. Enfin voilà, c'est presque le dernier des Mohicans, ce Grand Prix, Jean-Luc.
C'est ça, Pierrot. Bah, moi, je vais me mettre un coup de vieux tout seul, si je peux me permettre. Moi, j'ai vu les Grands Prix à Adélaïde, tu vois, avant de les voir à Melbourne. Donc, c'est te dire. Et c'était sympa aussi. Non, mais c'est une très bonne nouvelle, là aussi. Ça veut dire que, même si, et je l'évoquais tout à l'heure, Liberty Media a eu quelques velléités, et c'est normal, ils font leur boulot aussi pour essayer de créer de nouveaux Grands Prix exotiques. Bon, il y avait New York qui était dans le tuyau depuis longtemps, je crois qu'on a laissé tomber. Il y a eu Miami. Un moment, on n'en parle plus trop maintenant non plus. Il y a eu Londres, ça c'était la dernière piste, mais il faut rester sur les circuits traditionnels et cette ouverture du championnat aux antipodes, ou presque à Melbourne en Australie, c'est vachement important. Et c'est une belle fête là-bas parce qu'on adore la Formule 1, effectivement, on est content de l'accueillir. C'est un circuit atypique également, puisque c'est un grand parc, hein. C'est l'Albert Park, c'est un petit peu au sud de la ville. Enfin, l'ambiance est extraordinaire à plusieurs niveaux, donc je m'arrêterai là, mais les pilotes sont ravis d'y aller.
Et puis la Formule 1, c'est aussi un des rares sports qui se permet de prendre deux ans d'avance. Et oui, on se projette déjà sur 2021 avec les nouveaux règlements. Ça y est, on y est. On a pris la machine à avancer le temps. Et avec deux annonces majeures. Et ouais, c'est le retour de l'effet de sol pour que les Formule 1 perdent moins d'appui dans le sillage d'une autre monoplace et que les pilotes puissent se dépasser plus facilement. D'ailleurs, à ce sujet, Nicolas Tomasis, qui est le responsable technique des monoplaces à la FIA, a abondé dans ce sens-là en disant « Nous voulons faire en sorte que ce soit davantage possible pour les voitures de suivre et de courir les unes contre les autres. » Et d'avoir des batailles plus passionnantes, bon, c'est quand même un bon signe. On va dans le bon sens, en tout cas, du côté de la FIA.
Il est pointu, le Pierrot. Il est aussi pointu que Marie, hein, pour en F1, parce que Nicolas Tomasis, effectivement, c'est lui qui est en charge de cet aspect. Alors, il faut sauver le soldat F1. Vous savez que je le sens régulièrement. Mais là aussi, pourquoi? Parce que quand les pilotes disent, il faut les écouter, les pilotes. Heureusement, on les écoute un petit peu à la FIA maintenant. Quand ils disent qu'ils ne peuvent pas se rapprocher, qu'ils ne peuvent pas dépasser, parce que c'est un véritable mur aérodynamique. Dès qu'ils entrent trop dans le sillage de la monoplace qui les précède, eh bien, ils perdent jusqu'à 40-45% d'appui aéro, ce qui est monstrueux. Là, on va faire en sorte que l'appui aéro soit généré par le dessous de la voiture, ce qui était le cas pendant des dizaines d'années en Formule 1, et moins par le dessus. Ça veut dire que les pilotes vont être moins perturbés en s'approchant effectivement d'une monoplace, et on va avoir des dépassements naturels, j'ose dire, bien sûr. Alors maintenant, le DRS, il est incontournable et indispensable, mais on a rajouté cet artifice, je rappelle que c'est effacer une partie de l'aileron arrière pour gagner de la vitesse de pointe, ce qui est complètement artificiel. C'est comme si on jetait l'aileron avant pour gagner de la vitesse de pointe en pleine ligne droite. Bon, je schématise, mais là on va retrouver des pilotes qui vont avoir confiance et qui ne vont pas se retrouver sans appui, parce que le drame, il est là, c'est se retrouver à l'entrée de la courbe suivante à plus de 300 km/h sans appui aéro. Donc si c'est généré par le dessous des voitures, c'est une excellente nouvelle.
Et puis on termine avec l'autre bonne nouvelle, c'est que Pirelli a annoncé des pneus plus résistants et plus constants pour 2021. Bon, je sais que c'est un de tes combats aussi, Jean-Luc, celui que tu mènes contre les mecs.
Il y a des moulins avant aussi,
le problème, c'est que les faits donnent raison aussi à Jean-Luc. C'est qu'aujourd'hui, les pilotes sont sans cesse en train de gérer leurs pneus. J'ai une petite question pour toi. Est-ce que la FIA n'aurait pas intérêt à encourager la concurrence entre manufacturiers plutôt que de donner les pleins pouvoirs à Pirelli, qui finalement promet de faire mieux en 2021, mais c'est dans très longtemps, 2021?
Alors ça, c'est un problème, comme tu t'en doutes, Pierrot, économique, comme partout. C'est-à-dire que Pirelli achète, et c'est pas une insulte, hein, d'autres manufacturiers l'ont fait avant eux, l'exclusivité du contrat de fourniture en Formule 1. Donc, à ce titre, eh bien, ils enfilent les titres de champion du monde comme des perles, évidemment, puisqu'ils sont tout seuls. On va citer Michelin, par exemple, mais il y en a d'autres, hein, Goodyear ou Bridgestone, qui seraient prêts à revenir, mais à condition qu'on leur ouvre la porte. Alors après, on nous dit, oui, mais ça va être une bataille. Je pense que c'est une piste, effectivement, qu'il faudrait ouvrir, et en tout cas,
en anglais, let them fight.
Let them fight, exactement.
Laissons-les se battre.
C'est
pas facile à dire ça.
Non. Et ce qui est très important.
En anglais, LV4.
On l'a évoqué dans Motors, on peut dire ça, c'est qu'on va passer à des roues de 18, tu sais, c'est-à-dire un diamètre beaucoup plus important que les roues de 13 actuelles. Donc on va tout remettre à plat. Et comme l'a dit Pirelli, bah, si on nous demande de faire des pneus, effectivement, qui peuvent résister plus longtemps et résister au combat, bah, nous, on va les fabriquer. Donc demandons-leur, ça va être mieux.
Très bien. Merci beaucoup, Pierre Amiche, d'avoir été.
Merci Pierrot.
Avec nous dans Motors, Jean-Luc Roy, merci, ça a été un plaisir.
Mais c'est toujours un plaisir, comme d'habitude. Mais je crois que c'est malheureusement c'est notre dernier Motors ensemble.
Donc il te reste encore de. Merci à toutes et à tous d'avoir été avec nous tout de suite. C'est l'intégral tour avec Christophe Cessieux et toute la Dream Team. Salut Christophe, on espère une dernière étape dans les Pyrénées d'anthologie, une nouvelle fois, avec nos Frenchies devant.
Juste un petit mot quand même, parce qu'on sent que c'est les vacances, parce que convoquer Pierre Amiche pour parler de sport automobile, lui qui conduit comme une casserole et qui comprend rien à la Formule 1, là je dois dire que vous avez fait fort. Bravo Christophe. Franchement, je suis sur les fesses, complètement sur les fesses.
Mais sur la selle.
Non, je suis tombé de la selle là. On va effectivement s'intéresser à cette
étape
majeure du Tour de France. C'est la dernière étape des Pyrénées entre Limoux et Foix, Prat d'Albis, avec une étape avec pas moins de 4700 mètres de dénivelé positif. Julien Alaphilippe sera-t-il encore en jaune ce soir? On se pose la question depuis 10 jours et on espère se la poser encore jusqu'à dimanche prochain. L'intégral tour, c'est tout de suite et c'est jusqu'à 18h.